La première fois que Marie Guérin m'a parlé de son projet de création Les Pianistes, c'était après sa seconde résidence pour un projet qui en compterait 4 et qui nous voit revenir aujourd'hui pour en prolonger les effets de résonance de la création, suivre les ondes que le travail de Marie a donc émises depuis ce même site le 11 septembre 2024, date de l'avant-première. Entre ces deux dates, la pièce sonore s'est élaborée et entre ces deux dates, je suis entrée dans ce champ magnétique du geste de fabrication de l'œuvre qui nous réunit ici. La première fois que Marie a été accueillie par Villa Glovette, c'était du 21 au 29 octobre 2023. La seconde était en janvier 2024, du 23 au 26 janvier, avec l'équipe de réalisation de France Culture. La troisième s'est déroulée du 12 au 18 mai 2024. Au début de cette aventure de création, il n'était pas encore question d'associer le travail de Marie avec le mien. Il était seulement question, et c'était déjà beaucoup, d'une création sonore qui prendrait d'abord la forme d'une performance à l'endroit de la stèle commémorative en mémoire de Léa Blin et Rémi Lifshitz, implantée sur le rond-point qui dessert les Glovettes. Ce lieu, proche de l'endroit où les corps furent abattus, devenant occasionnellement et selon le calendrier patriotique, un site de commémoration, autrement dit, un site qui accueille une communauté métonymique du peuple français, réunis pour participer à un rituel de mémoire collective, un espace-temps de la communauté de mémoire. Ensuite, cette création sonore irait poursuivre son chemin vers les studios de Radio France pour y être à nouveau performée et émise depuis la Maison Ronde, qui a dans l'histoire de Marie une importance particulière. Tout cela, ou presque, est arrivé. La création a bien été performée en live et au Glovette le 11 septembre 2024, puis dans le studio 117 de la Maison de la Radio à Paris le 7 décembre 2024. C'est cette version radiophonique réalisée en compagnonnage avec Gilles Mardi-Rossian et Fred Changenet que nous écouterons ensemble juste après. Ce trajet normal d'une création qui s'élabore dans le patient, lent, long, méticuleux travail de l'artiste pour aller vers une forme adressée aux spectateurs, aux auditeurs, s'est trouvé mis au contact à partir de février 2024 avec ma trajectoire de recherche explorée dans le projet Prazor, qui signifie « pratique sonore de la recherche » et qui se trouve donc développée à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Les dates, les temporalités ont une importance qui n'est pas seulement liée à l'histoire, la rencontre entre la grande et la petite, cette micro-histoire que Marie arpente justement avec ses micros. Les dates et les temporalités importantes dans mon processus de recherche sont celles des phases de construction de la pièce sonore « Les pianistes », sous-titrées « Enquête ultra-locale, archives du pays des Glovettes. La variation radiophonique Les Pianistes, The Last Call ou Les Pianistes, The Last Call, La Liaison Dangereuse, bien qu'importante dans l'évolution et les différences de diffusion, n'a pas été l'objet du même traitement d'analyse que la pièce créée au fil des résidences à Villa Glovette et surtout pour Villa Glovette, pour le territoire qui la nourrit. Ainsi, le projet Les Pianistes en résonance est un projet qui réunit deux courants, deux personnes, une artiste documentariste et une chercheuse documentariste, engagées dans leur propre processus de travail et qui se trouvent arrimées en un point de rencontre, j'irais jusqu'à dire un rond-point, un point de circulation sur lequel on s'arrête aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a conduits jusque-là ? Beaucoup de raisons, parmi lesquelles nous retiendrons une communauté d'intérêt pour l'histoire et la mémoire, en tant que nourricière d'actes de création, et notamment un certain attrait pour les documents qui précèdent l'écriture de l'histoire, à savoir les archives, le document et les actions qui s'y racontent. Nous partageons le goût de l'archive. Sans doute, ce qui attire le plus réside dans le creux, les creux qui se logent dans les archives, le bruissement qui s'y entend, les murmures des voix éteintes que l'historienne Arlette Farge a tant travaillé. Ces creux du document réclament alors d'être comblés par une enquête orale qui va faire entendre les autres creux, ceux qui se logent dans la parole des vivants, engagés dans un acte de remémoration, parce que Marie vient leur demander de raconter. Se dessine ainsi une circulation entre des fragments de passé provoqués par le geste de création, l'enquête, la récolte, l'assemblage, la transformation, la métabolisation des matériaux, dans un geste de recyclage de la matière qui fait naître la forme poétique et signe une voix sonore, celle de Marie Guérin. La seconde chose qui nous réunit réside dans l'usage du médium sonore en tant qu'outil d'écriture. L'une engagée dans une approche poétique du documentaire et l'autre, la mienne, dans une approche scientifique du documentaire sonore. Nous nous engageons toutes deux dans une démarche de captation, à l'écoute des voix qui se livrent et des sonosphères dans lesquelles nous baignons pour nous acheminer vers des opérations de montage, c'est-à-dire de tri, de coupe, d'assemblage, de travail avec la matière sonore dans des expériences professionnelles très différentes, mais réunies par le goût de l'écoute. Au fil des interventions et des échanges qui nourriront cette journée de résonance, nous serons amenés à porter notre attention sur certains points clés du geste de création de Marie dans cette double forme sonore. Les intervenants qui nous font l'honneur d'avoir accepté notre invitation sont différemment entrés en contact avec la trajectoire de création de Marie. Philippe Anus, auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la résistance et sensible aux démarches de la création, est celui qui, parmi nous, est intervenu le plus tôt dans le processus de création. Il est l'une des personnes ressources que Marie a rencontrées à mesure qu'elle prenait conscience du poids de l'histoire, de la résistance qui planait comme une ombre écrasante sur son projet artistique. Céline Della Savia a offert à Marie un espace de dialogue sur les usages artistiques des archives dans son œuvre, fil d'Ariane de la plupart de ses créations. Maryse Bazzoli, qui nous rejoindra cet après-midi, est elle aussi une personne ressource dans le processus de création. Elle est même la source, selon Marie. Elle est celle qui, la première, édifia les documents monuments à la mémoire de Léa Blin, documents que l'on retrouve dans l'ouvrage que Jean-Paul Papet a consacré à la jeune résistante. Rémi Corman a la particularité de n'avoir pas été impliqué dans le processus de création des pianistes, mais est présent en sa qualité de précieux collaborateur scientifique. Il relie le projet des pianistes en résonance avec le projet Prazor, que je coordonne donc à l'Université catholique de l'Ouest. Dans ce projet, nous sommes plusieurs à explorer les écritures sonores de la mémoire. Cela passe par une analyse et la réalisation d'un ensemble de documentaires sonores, notamment liés à la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda, dont Rémi est spécialiste. La présence de Rémi Corman parmi nous est aussi liée à son passé de jeune chercheur, investi dans le réseau Memora et collaborateur scientifique de Philippe Anus. Ensemble, ils ont publié l'ouvrage collectif « Prendre le maquis » paru en 2016. Nous avons choisi de réunir ces différentes voix pour entendre les effets de résonance de l'œuvre et prendre le temps d'écouter non seulement le temps de la réception, mais surtout de relier ce temps à celui caché de toute la période d'élaboration, autrement dit du processus de création, objet du documentaire que je déploie dans le projet « Les pianistes en résonance ». Comment documente-t-on un processus de création ? Toute activité, et ce ne sont pas les historiens et archivistes ici présents qui me contrediront, génère des traces, des documents de différentes natures que les recherches sur les processus de création regroupent en deux grandes catégories. On parlera de documents endogènes et de documents exogènes. Les premiers résultent de l'activité de création. Ce sont les notes, les brouillons, les documents récoltés par les artistes qui alimentent leurs projets, qui construisent le palimpseste de la création. Ils témoignent des différentes étapes de formation d'une œuvre avant sa forme finale. Ce sont aussi les documents qui manifestent les conditions de production, les documents de nature administrative. Ces documents-là existent avec ou sans la présence de chercheurs ou de professionnels de la patrimonialisation, mais ils ne sont pas destinés à être rendus publics ou même auscultés. Ils sont, ou bien amenés à disparaître, tels les lambeaux de tissu une fois le patron dessiné, ou entassés dans les greniers des artistes. Or, lorsqu'un processus d'analyse et de documentarisation, je me l'autorise, se met en place dans la même temporalité que l'acte de création, comme ce fut, à quelques mois près, le cas pour les pianistes, certains de ces documents, générés par la fabrique de l'œuvre, accèdent immédiatement au statut de données issues de la création, triées, sélectionnées pour être transmises à la recherche. Voire, certaines de ces données ont été créées en adresse à la chercheuse que je suis, manifestant ainsi un dispositif dialogique qui a accompagné Marie dans sa création dès lors que nous nous sommes engagés dans la réalisation du projet « Les pianistes en résonance ». Le statut de ces documents les situe à l'intersection des deux catégories. Ils peuvent être considérés à la fois comme endogènes et exogènes, car l'artiste produit alors ses traces en adresse et de fait, entre elle-même dans un processus de documentation de son geste. La seconde catégorie de documents générés par l'activité, cette fois-ci scientifique, que l'on désigne comme exogène, va réunir l'ensemble des productions générées par le chercheur sur le processus de création étudié. Ces documents peuvent être de plusieurs natures, carnets de notes d'observation, entretiens, analyses. Dans la méthode élaborée au sein du projet PRASOR, qui a été appliquée à la documentarisation du processus de création des pianistes, l'essentiel des données produites par la recherche est de nature sonore. Il regroupe des enregistrements d'observation sur le terrain qui ont commencé le jour de la performance, un peu trop tardif, cela étant lié au financement obtenu après la dernière résidence de création. Ces prises de son in situ ont été précédées d'enregistrements audio d'entretien avec Marie. Le premier le 19 mai 2024, le second au début du mois de juillet, séparé de 2 mois de la première date publique. Cette phase de documentation s'inscrit dans l'une des 3 temporalités qui constituent la méthode de recherche, l'avant, le pendant et l'après du processus de création. Avant les premières répétitions ou résidences, c'est le temps du rêve, celui où l'imaginaire de l'artiste s'ouvre à tous les possibles. Vient ensuite le temps du pendant, celui de l'action, le cœur du processus de création, où l'artiste entre dans la fabrication, et ce temps est bien entendu constitué de plusieurs phases qui vont faire apparaître des prises de décision, des renoncements, des abandons, à mesure que s'approche la date de première ou de livraison. C'est une phase faite de fébrilité, comme on peut s'en douter, une phase où les doutes doivent être refoulés lorsque la date approche. C'est dans cette phase dite du pendant que nous pouvons le plus souvent, nous, chercheurs, être au contact de la création et observer les dynamiques de construction, les prises de décision, les énergies. La dernière phase est celle que l'on désigne par l'après, c'est-à-dire que la première date est passée, que la création a rencontré un premier public et qu'elle va désormais évoluer à la marge ou se fixer selon les projets. C'est dans cette dernière phase de l'après que se situent mes enregistrements d'observation sur le terrain, au Glovet et au MRDI à Grenoble. En spectacle vivant, le spectacle présenté en première va nécessairement bouger par la suite. Au contraire, dans les arts médiatiques basés sur le processus d'enregistrement et de diffusion, la forme se fixe. Dans le cas qui nous occupe ici, la forme performée les pianistes a ainsi évolué entre l'avant-première du 11 septembre au Glovet et la première donnée au MRDI le 14 septembre. Cette forme-là, parce que performée, s'apparentait davantage au spectacle vivant, à la scène musicale, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la performance impose une temporalité éphémère, l'ici et maintenant. Ensuite, parce qu'une scénographie, des éléments signifiants de décor, les blasons créés par Mathilde Rouche, les enceintes du collectif Gros Caissoir, les inscriptions qui renvoyaient au sous-titre de la pièce « Enquête ultralocale et archives du pays des Glovettes », bombées de peinture fluo sur le sol du MRDI et qui guidaient le public, une petite scène sur laquelle Marie installe ses consoles et depuis laquelle elle envoie les sons et sa partition en direct. Un espace scénique a donc été conçu, faisant partie du projet imaginé par Marie et la scénographe. Mais la météo du 11 septembre 2024 a obligé la production à programmer l'événement en intérieur, là où nous nous trouvons, je l'ai déjà dit. Ce déplacement physique, cette reconfiguration contrainte et hâtive à laquelle j'ai assisté, engagée dans mon travail d'observation et de documentation de la création, a modifié l'étape ultime du processus de création quelques heures seulement avant l'ouverture au public. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'enregistrement d'entretien réalisé avec Marie pendant le processus de création montre l'importance de cette première date scénarisée comme une commémoration en proximité de la stèle et dans une adresse au paysage. Cette scénographie a nourri l'imaginaire de la performance, elle était dotée d'un fort pouvoir dramaturgique. C'est à cette forme-là, mouvante et éphémère, que s'attache mon documentaire. L'enjeu est de faire entendre les dispositifs d'écriture mis en place par Marie dans son geste d'écriture sonore de la mémoire du pays des Glovettes. Ce geste passe par une enquête qui procède par différentes approches. La recherche de documents et d'archives sur laquelle insistera Céline Delasavia cet après-midi. La recherche et le contact de personnes que Marie identifie ou qu'on lui indique comme des personnes ressources. Le contact est établi par des appels et des conversations téléphoniques que Marie a enregistrées et m'a transmis et qui sont donc des éléments sonores qui me permettent de donner à entendre le travail d'élaboration de l'œuvre, ses enjeux, son contexte de création. On entend ainsi le combat avec le poids de l'histoire, la nécessité de trouver une voie singulière pour faire œuvre à partir d'un sujet en lien direct avec la résistance. Dans les échanges que j'ai avec Marie pendant le processus d'enquête et d'élaboration de la création et ceux que je mènerai au lendemain de la première en itinérance sur les chemins qu'elle a arpentés, Marie analyse l'échelle à laquelle elle s'est attachée pour ne pas perdre son cap, ne pas se noyer dans la vaste résistance. Cette échelle est celle du micro-pays qu'elle a pu parcourir à la hauteur de ses pas, dit-elle. Ce qu'il faut entendre ici, c'est que la résidence de création ne prévoyant pas de véhicule pour aller plus loin que là où portent les pas, le périmètre de récolte de la parole s'est trouvé restreint à une zone restreinte. Mais que cet empêchement qui a été conçu, que c'est cet empêchement qui a été conçu comme un cadre à l'écriture de la création documentaire. Je vais maintenant vous proposer à l'écoute le début de ce documentaire en cours de montage, le mien, dont le titre pour le moment imaginé pourrait être évidemment Les pianistes en résonance.
Allô? 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 Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Clovet. 1250 mètres d'altitude. C'était le 1er août 1944. Il n'y avait pas de rond-point. Il y avait la fontaine. Il n'y avait pas de lit vide. Il y avait une ferme. Le 1er août 1944.
Qui a vu quoi?
Qui a vu quoi ce jour-là? Scène de crime au Clovet. Oh.
en résonance.
Allô Marie.
Salut Séverine.
Comment tu vas?
Bah écoute, traversée quand même par les choses, par l'imprégnation que j'ai tenté de vivre, de provoquer, de voilà. C'était intéressant de t'avoir quand même dans ma tête. Des fois, je m'adressais à toi. Donc ça m'a permis de travailler en fait.
Comme un dialogue silencieux quoi.
Ouais. Un moment, par exemple, mais ça, c'est le matériau que je te livrerai, je t'adresse quelques messages, tu vois.
Coucou Séverine, j'espère que tu vas bien. Je pense fort à toi. Ça y est, là, on est mardi, je suis au Glovet depuis samedi. Et je me sens enfin dedans, et bien. Et ça a mûri tout de suite sur le plan formel, alors que je suis encore quand même dans la collecte. Je suis pas encore dans le ni dans la transformation ni dans le choix, mais ça, je me suis quand même mise à réfléchir, à gamberger sur la forme.
Mais ces semaines-là, tu vois, j'ai l'impression de me charger, de prendre des picousses de fantômes, quoi. Et du coup, hier soir, je suis allée tourner dans la forêt, prise nocturne, je m'étais noté ça, de revivre l'expérience, je tâche, mais bon...
Tu cherches des fantômes, mais qui sont pas que des fantômes humains, quoi. Tu cherches des fantômes comment le lieu est fantôme aussi, quoi.
Ouais. Je cherche des... C'est comme ce que produit l'enregistrement sonore. On a l'épaisseur du moment présent et puis bah, il a déjà fui une fois capté, mais ça reste des capsules, tu vois, temporelles comme ça. Et je cherche ouais, à créer l'image du moment où Dani allait au bal.
Voilà. C'est un possible début puisque le travail est en cours. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans cet extrait? Qu'est-ce qu'elle dit, la situation? Je pense que vous aurez compris que c'est l'enregistrement donc réalisé de nuit, comme le fait entendre l'ambiance sonore avec le son de cette chouette, ou peut-être n'est-ce pas une chouette, un oiseau nocturne apparenté en tout cas. Cette nuit, c'est la dernière nuit que Marie passe au Glovet en mai, avant d'y revenir quelques mois plus tard en septembre pour jouer la pièce. Et ce rush fait partie de l'ensemble des documents que Marie a sélectionnés et a choisi de me transmettre pour me permettre de mener à bien mon projet d'écoute, d'analyse et la construction de mon propre projet documentaire. Il est donc un document endogène à la création. Et j'ai ensuite rapidement choisi de faire intervenir notre premier entretien, celui du 19 mai, réalisé par téléphone. Moi, je suis à Laval, là où j'habite. Marie est donc ici. Et c'est le jour de départ de sa dernière résidence. Donc cette nuit-là, c'était la nuit qui avait juste précédé le départ. Pourquoi ? Bah, pour donner aux auditeurs le cadre en fait de ce projet documentaire, qu'ils comprennent la situation. Je place d'abord l'artiste en situation, puis ensuite je vais faire intervenir le dispositif dialogique qui va se mettre en place avec la recherche. Donc ce documentaire que je vais réaliser dans les prochains mois, là, vous l'aurez compris, il sera composé d'éléments endogènes et exogènes montés dans une narration qui devra faire ressortir les différentes qualités de prise de son. Là, on avait, je pense que c'était le MS qui devait faire un truc un peu bizarre, donc un truc à régler. Des prises de son au cœur de la création, comme celle qu'on vient d'écouter, et puis d'autres dans un rôle de récit et d'analyse de la création. Récits et analyses qui s'expriment dans les dialogues que nous avons menés et qui font entendre la pensée de Marie sur son geste de création. Et sans doute, est-ce cela le plus important dans le travail que j'entreprends, faire entendre la dialectique de la création par les opérations de montage qui permettent de mettre en résonance la pièce avec la matière qui la nourrit. Et bon, là, j'aurais aimé lancer une dernière, à peine toute petite minute, avant de vous donner... ma phrase de conclusion.
Les pleins et les vides dans la mémoire, tu vois. Que puisque c'est à ça que je me suis attachée.
C'est en fait, un avion.
J'ai beaucoup d'enregistrements lors de mes autres résidences. Mais encore une fois, je pense que je me suis dit ça. Ça t'était peut-être destiné d'ailleurs. Peut-être que, tu vois, je travaille énormément dans ma tête parce que je savais qu'il y avait... Je sais pas. Je sais pas si je travaillais plus, mais en tout cas, je posais des mots. Et c'était aussi cette rencontre aux archives aussi.
Mais oui.
Il y a vendredi qui me faisait gamberger en continu.
C'est-à-dire que tu mettais un rapport dialectique en permanence plus que d'habitude du fait du processus dans lequel on est engagé?
Bah, j'ai l'impression. Mmh.
Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir nous lancer dans l'écoute de la création Les Pianistes de Last Call, La Liaison Dangereuse. Et je vais laisser la parole à Marie qui va introduire cette version radiophonique. Et je vous remercie chaleureusement pour votre écoute attentive.
Quand je suis arrivée dans le Vercors, j'ai découvert qu'il y avait une maison des radios à La Britière, surnommée La Britière, à Saint-Agnan. Je viens aussi d'une maison de la radio. J'ai appris mon métier dans cette maison de la radio, dans la maison ronde, comme un artisan du sonore, pour le direct ou pas, dans une ruche où on fabrique en équipe des émissions en son seul, qui passe par le CDM, le centre de modulation. J'ai appris dans cette maison à écouter. J'ai appris ce travail avec des collègues, des camarades. Je vous diffuse un petit bout, la voix d'un camarade, que j'ai enregistré lors d'un documentaire qui s'appelle La Bouche d'ombre.
Qu'est-ce que vous avez appris à la radio ?
À vivre. À vivre. C'est inséparable de mon mode d'existence.
De votre mode d'existence.
Oui. J'ai pas envie de dire. Oui, à vivre. C'est là que j'ai eu mes plus belles expériences.
J'ai eu mes plus belles expériences, mes plus grandes déceptions à la radio.
C'est un fil continu de vie.
C'est un fil continu, le flux.
Oui.
Et vous pouvez me donner un fil de lecture de vos 500 sons, là, parce que moi, je ne sais pas comment les choisir, je ne sais pas comment les...
C'est votre responsabilité, ça. Mais alors, je fais l'émission et vous me foutez votre cachet.
Filez-moi votre cachet, alors, sinon.
C'est votre vision de la chose.
J'ai le droit de faire tout ce que je veux.
C'est ce que je sais. Alors, il y a tous ces chapitres, ça.
Sauf... Touché à l'original. Toutes les copies sont à vous. Je vous remercie. J'espère que ce sera beau. Ce sera pour le 24 décembre.
Ah, joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Voilà, c'est la voix de Gilbert Maurice Duprez, un monsieur des nuits de la radio sur France Culture. Mais pour en revenir au lancement de cette émission qu'on va écouter ensemble, voilà, donc je viens de la radio. Qu'est-ce que cela signifie ? Quel est ce bagage ? Comment apprend-on à adresser ce message à des oreilles invisibles, aux auditeurices ? Comment apprend-on à écrire pour cette grande partition qui est le flux en direct ? Pour ce flux, on a fabriqué cette émission qu'on va écouter ensemble qui s'appelle « Les pianistes, The Last Call » ou « La liaison dangereuse ». Et pour ce flux, sur France Culture, j'ai écrit ce lancement. C'est maintenant, c'est tout de suite. Dans ce présent, on air, si vous recevez ce signal, on vous propose une expérience de radio, dans la radio, dans la radio. Cette création fut un jour spatialisée et jouée en live à 3 paires d'oreilles et 6 mains dans le studio 117 de la Maison de la Radio et de la Musique. Vous allez écouter maintenant cette prise de risque, tout est relatif, cette captation live, ça donne de l'épaisseur au présent. C'est maintenant et ici, à 1250 mètres d'altitude, ça s'appelle Les Pianistes, The Last Call. Et on va écouter l'émission grâce à Robin et Sébastien qui ont installé cette couronne d'enceinte.